Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
À toutes et à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Les diplômés de l'Université Al-Azhar ont demandé de répandre l'islam modéré. L'Indonésie cible la demi-finale au championnat junior de BWF 2017. Selon le président, les femmes sont la clé de la paix. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. 260 élèves de l'Université Al-Azhar de 10 pays, dont 188 étudiants indonésiens, ont eu leur diplôme au centre de congrès Al-Azhar, au cœur d'Imans. Ils se composaient de diplômés et de diplômés de poste, après avoir assisté à la cérémonie de remise des diplômes de l'Université Al-Azhar, l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Caire, M. Helmi Fauzi, espère que lors de leur retour en Indonésie, ils pourraient développer le concept Al-Azhar pour développer l'islam comme une religion modérée qui confirme les valeurs de compassion et de paix. Helmi Fauzi espère qu'avec la connaissance de la religion, les diplômés de l'Université Al-Azhar puissent contribuer au développement en Indonésie. Cependant, deux des six bénéficiaires du prédicat cum laude à la classe de fin d'études 2017 sont des étudiants de premier cycle et de troisième cycle d'Indonésie.
Dan diharapkan ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka bisa mengembangkan risalah
Al-Azhar. Les diplômés devraient développer le concept Al-Azhar lors de leur retour en Indonésie. Le concept de l'islam comme religion qui défend les valeurs de compassion, de paix et de respect de l'humanité. Nous espérons qu'il pourrait également diffuser l'islam modéré enseigné à Al-Azhar. Le représentant de le recteur de l'Université Al-Azhar, M. Mohamad Mahmoud Abu Hashim, a affirmé que les diplômés indonésiens ne devraient pas seulement contribuer à la propagation de l'islam modéré dans leur pays. Il devrait également faire de même pour les pays voisins. Selon lui, les diplômés Al-Azhar devraient pouvoir montrer au monde que l'islam était une religion de paix et compassion. L'Indonésie cible atteindre la demi-finale du championnat junior de la Fédération mondiale de badminton 2017. Cela a été indiqué par le chef d'équipe indonésien, Susi Susanti, lors d'une conférence de presse à Yogyakarta dimanche 8 octobre. Selon elle, les athlètes juniors indonésiens possèdent un grand esprit pour donner leur meilleur pour l'Indonésie, mais elle ne voulait pas les baisser. Au championnat junior en Asie, nous avons eu l'opportunité d'être le gagnant asiatique, mais nous n'avons pas la fortune. Nous essayons de faire une leçon et nous espérons être beaucoup mieux dans ce championnat du monde junior. Notre objectif est au moins, nous atteignons la demi-finale afin que les jeunes athlètes puissent se concentrer ensemble, un par un. Nous essayons de ne pas surcharger, mais si tous les athlètes veulent donner leur meilleur pour l'Indonésie, nous espérons certainement atteindre le meilleur. Selon Soucy Soussanti, l'Indonésie possède trois secteurs excellents dans le championnat junior de BWF 2017, à savoir le femme célibataire, le double féminine et le double mix. Auparavant, l'Indonésie avait battu l'Espagne pour accueillir l'événement international de badminton junior. Le championnat junior de BWF 2017 se tiendra au stade Rogo, Yogyakarta, du 9 au 22 octobre 2017. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que les femmes étaient la clé de la paix de petite à grande portée. Le président, dans son discours lors de la commémoration de la Journée internationale de la paix à Pesantren Anukoya, sous-district de Guluk-Guluk, la régence de Sumanap Javaes, a déclaré dimanche que les femmes et les mères jouaient un rôle important. Elles peuvent être la clé de la paix tant des familles, dans les régions, dans les provinces, les pays et dans le monde. Le président a déclaré que la paix ne peut pas être forcée, mais devrait être cultivée, et les femmes peuvent y jouer un rôle. Lors de l'événement, le président a également rappelé que l'Indonésie était un grand pays avec 519 régions, 34 provinces, 1100 langues et diverses cultures. En outre, l'Indonésie compte 714 tribus et une autre diversité. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. L'aéroport international de Soekarno-Hatta en Indonésie est classé 7e dans la liste d'aéroports le plus connecté dans le monde et 2e dans la liste Asio-Pacifique. Ceci est indiqué dans le rapport de Megahub International Index 2017, la version de l'agence britannique OAG. Dans le rapport, l'aéroport international de Soekarno-Hatta a reçu la valeur d'indice de la connectivité 256 à un seul point à la dérive de l'aéroport international à Changi, Singapour, qui a gagné 257. Le président directeur de PT Angkasa Pura II, M. Muhammad Awaluddin, a déclaré le dimanche que l'aéroport international de Soekarno-Hatta était le plus grand aéroport et le plus achalandé en Indonésie, avec le mouvement de passagers atteignant 60 millions de passagers par an. Le service de l'aéroport international Soekarno-Hatta comprend également la deuxième ligne de vol international la plus achalandé dans le monde, tels que Jakarta-Singapour, avec le nombre de passagers atteignant plus de 322 000 passagers chaque mois. Le ministre des Transports indonésien, M. Budi Karya Sumadi, a déclaré que le projet de train semi-rapide Jakarta-Surabaya sera commencé en 2018. Le projet est rapide et bon marché et peut résoudre beaucoup de choses, comme par exemple les questions transversal à Jakarta-Surabaya jusqu'à 800 points. Cela a été dit par le ministre Budi Karya Sumadi à l'aéroport de Trunojoyo, Sumenep, Javaes, le dimanche. L'investissement pour ce projet est d'environ 60 trillions rupiah, y compris environ 20 trillions rupiah pour la maintenance de 800 passagers sur une ligne de chemin de fer de Jakarta-Surabaya. Selon le ministre, notamment pour le travail ferroviaire transversal tel que la route Supong ou dans passager supérieur, son ministère impliquera le ministère des Travaux publics et le logement populaire. La danse de Sintung, la danse originale de la résidence de Sumenep, est devenue l'une des performances présentées au sommet de la Journée internationale de la paix 2017 à Pondok Pesantren Anukoya, sous-district de Guluk-Guluk, la régence de Sumenep, Madura, Javaes, dimanche 8 octobre. L'existence de cette danse est maintenant assez rare. L'anniversaire de la Journée internationale de la paix 2017 à Pondok Pesantren Anukoya est une collaboration entre la Fondation Wahid et l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Cette activité a été assistée par le président Joko Widodo, le ministre social Khofiyah Indar Parawansa et le directeur de la Fondation Wahid, Yeni Wahid. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Avant l'élection présidentielle en Indonésie 2019 ». L'Indonésie organisera les élections présidentielles en 2019, mais le travail a été commencé actuellement, y compris dans le bureau de la Commission électorale ou KPU. Depuis le 3 octobre 2017 jusqu'au 16 octobre 2017, KPU ouvert l'enregistrement des partis politiques participant à l'élection. C'est la première étape des 11 étapes de l'élection de 2019, telle que réglementée par la loi numéro 7 l'année 2017 sur les élections générales. 73 partis qui sont enregistrés au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, 30 d'entre eux ont rempli des données de leur parti sur le système des informations des partis politiques ou KPOL, KPU indonésien. Les 30 partis se composent d'un parti politique national et 7 partis locaux à Aceh. D'autres activités avant les élections présidentielles 2019 sont également vues dans quelques agences de sondage, comme le sondage qui a été mené par le groupe de discussion et d'étude de l'opinion publique indonésienne ou Kedai Kopi du 8 au 27 septembre 2017. L'étude a montré que 89,9% des répondants reconnaissent que le candidat au vice-président influence dans le choix du candidat à la présidence. 48,4% ont répondu n'ont pas eu influencé et le reste n'a pas répondu. En plus de la figure du vice-président, l'agence d'enquête a également demandé au sujet du choix du président si les élections se tenaient au jour de la question est posée. Les sondages qui sont faits par Saiful Mujani Research and Consulting montrent l'excellence de Jokowi avec 38,9%, suivi par Prabowo Subianto 12,0% et Susilo Bambang Yudhoyono 1,6%. Les autres noms sont encore inférieurs à 1%. Les résultats de l'enquête peuvent être utilisés comme référence, notamment pour les partis politiques qui participeront à la prochaine élection présidentielle de 2019, afin de mener une consolidation interne. Le plus important avant l'élection présidentielle de 2019 est que chaque candidat à la présidence et candidat à la vice-présidence et un parti politique qui le soutient peuvent jouer avec une honnêteté et une élégance lors des élections. Le pays et le peuple indonésien ont besoin d'un leader honnête et juste qui peut représenter tous les groupes. Espérons que l'élection présidentielle en 2019 peut se dérouler bien et l'Indonésie obtient un leader qui peut améliorer l'Indonésie. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 9 octobre 1962, l'indépendance de l'Ouganda. La République de l'Ouganda est un pays de l'Afrique de l'Est. Il est bordé par le Kenya à l'est, le Soudan au nord, la République démocratique Congo à l'ouest, le Rwanda dans le sud-ouest, et la Tanzanie et le lac Victoria dans le sud. Au 19e siècle, l'Ouganda gouverné par la Grande-Bretagne et l'Égypte. À cette époque, l'Ouganda est devenu l'une des provinces de l'Égypte nommée Équatoria. La lutte pour l'indépendance de la Grande-Bretagne a commencé en 1945 jusqu'à 1949, lorsque des émeutes prolétariat En 1953, le roi Mutesa II a été exilé en Angleterre et retourné en Ouganda en 1955. Et enfin, le 9 octobre 1962, l'Ouganda a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. Le 9 octobre 1966, la naissance de David Cameron. David William Donald Cameron est l'ancien premier ministre du Royaume-Uni et aussi le chef du Parti conservateur. Le 24 juin 2016, le lendemain du référendum sur le Brexit qui détermine le sort de l'adhésion britannique dans l'Union européenne, Cameron a déclaré sa démission. Lors de l'élection générale de 2010, le Parti conservateur a réussi à obtenir le meilleur résultat depuis 1992. Le 11 mai 2010, Gordon Brown a démissionné et Cameron a été nommé Premier ministre du Royaume-Uni. Le 9 octobre 2004, la mort de Jacques Derrida. Jacques Derrida est un philosophe français. Il est connu pour l'élaboration d'une analyse sémiotique connue sous le nom de déconstruction. Il est une figure importante dans la philosophie postmoderne. Il a décrit plus de 40 livres, des centaines d'essais et des présentations publiques. Il est considéré comme une grande influence dans les sciences humaines et sociales, le droit, anthropologie, historiographie, linguistique, sociolinguistique. Son œuvre a eu une grande influence en Europe et en Amérique latine. C'était l'Histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonesia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, voici donc la mise au point et pour le titre. L'Indonésie et la Jordanie renforcent la coopération contre le terrorisme. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Alpemarsudi, a tenu une réunion bilatérale avec son homologue jordanien, Ayman Safadi. Lors de la réunion bilatérale au ministère jordanien des Affaires étrangères, mercredi le 4 octobre 2017, ils ont convenu de renforcer la coopération dans le but de lutter contre le terrorisme. La ministre Retno Alpemarsudi, lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères à Jakarta jeudi, a déclaré que sa partie avait convenu également que le défi actuel était la menace de la régionalisation des groupes terroristes sur lesquels certains combattants terroristes étrangers ou FTF quittent la région du Moyen-Orient. Au cours de la réunion, la ministre Retno Alpemarsudi a mentionné que la situation à Marawi, aux Philippines, est l'un des exemples de la régionalisation des groupes terroristes. Pendant ce temps, la Jordanie est l'un des pays dont les citoyens sont victimes parce que beaucoup de ces citoyens adhèrent à FTF. Par conséquent, les deux ministres ont souligné l'importance des efforts conjoints par la coopération et le partenariat pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme. Elle a encouragé à tenir la discussion du mémorandum d'accord sur la coopération du contre-terrorisme et du radicalisme. Les deux ministres ont affirmé l'essence des informations et des renseignements, la prévention du financement du terrorisme, la gestion des FTF, les programmes de la déradicalisation et de dialogue interreligieux et le renforcement des capacités dans le cadre de la coopération. Selon la ministre Kretan Marsoudi, le renforcement de la capacité des autorités de sécurité contre le terrorisme et le radicalisme est très important. Ainsi, elle a invité les responsables de la justice jordanienne au centre de coopération en matière d'application de la loi de Jakarta, ou JCLEC. Au cours de la réunion, la ministre Retno Marsudi a également déclaré que de nombreux pays islamiques n'avaient pas pleinement utilisé leur potentiel. Les deux ministres ont partagé leur point de vue, les conflits internes et inter-islamiques pour vous qu'ils les limitent à faire progresser leur peuple. Ils ont également convenu de l'importance de renforcer la coopération bilatérale avec d'autres pays islamiques pour exploiter le potentiel commun de bien-être des populations. L'Indonésie et la Jordanie sont deux pays où l'islam, le pluralisme et la démocratie coexistent. En tant que pays pluraliste et modéré, la Jordanie est un partenaire naturel dans l'expression de l'islam, rahmatan lil alamin, ou une religion qui apporte la grâce et le bien-être à l'assemblée de l'univers. Au cours de la réunion, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté du développement de la situation palestinienne. La ministre Kretan Marsudi a souligné l'importance de soulever la question de l'indépendance palestinienne à l'ordre du jour. Ils ont convenu qu'il n'y avait pas d'autre solution dans la question palestinienne à l'exception de la solution à deux États. Plus précisément, le ministre jordanien des Affaires étrangères a exprimé son appréciation pour l'engagement de l'Indonésie à lutter et à trouver des solutions aux défis auxquels sont confrontés les Palestiniens, y compris la tragédie de la mosquée Al-Aqsa. Les relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Jordanie ont commencé depuis 1950. L'ambassade d'Indonésie à Amman, en Jordanie, a été couverte depuis 1985. Pendant ce temps, la Jordanie a ouvert son ambassade à Jakarta en novembre 1986. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
260 élèves de l'université Al-Azhar de 10 pays, dont 188 étudiants indonésiens, ont eu leur diplôme au centre de congrès Al-Azhar au Caire dimanche. Ils se composaient de diplômés et de diplômés de poste. Après avoir assisté à la cérémonie de remise des diplômes de l'université Al-Azhar, l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Caire, M. Helmi Fauzi, espère que lors de leur retour en Indonésie, ils pourraient développer le concept Al-Azhar pour développer l'islam comme une religion modérée qui confère les valeurs de compassion et de paix. Helmi Fauzi espère qu'avec la connaissance de la religion, les diplômés de l'université Al-Azhar puissent contribuer au développement en Indonésie. Cependant, deux des six bénéficiaires du prédicat cum laude à la classe de fin d'études 2017 sont des étudiants de premier cycle et de troisième cycle d'Indonésie.
Dan diharapkan ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka bisa mengembangkan risalah Al-Azhar.
Le diplômé devrait développer le concept Al-Azhar lors de leur retour en Indonésie. Le concept de l'islam comme religion qui défend les valeurs de compassion, de paix et de respect de l'humanité. Nous espérons qu'ils pourraient également diffuser l'islam modéré enseigné à Al-Azhar. Le représentant de le recteur de l'Université Al-Azhar, M. Mohamad Mahmoud Abu Hashim, a affirmé que les diplômés indonésiens ne devraient pas seulement contribuer à la propagation de l'islam modéré dans leur pays. Ils devraient également faire de même pour les pays voisins. Selon lui, les diplômés Al-Azhar devraient pouvoir montrer au monde que l'islam était une religion de paix et compassion. L'Indonésie cible atteindre la demi-finale du championnat junior de la Fédération mondiale de badminton 2017. Cela a été indiqué par le chef d'équipe indonésien, Susi Susanti, lors d'une conférence de presse à Yogyakarta dimanche 8 octobre. Selon elle, les athlètes juniors indonésiens possèdent un grand esprit pour donner leur meilleur pour l'Indonésie, mais elle ne voulait pas les pécer. Au championnat junior en Asie, nous avons eu l'opportunité d'être le gagnant asiatique mais nous n'avons pas la fortune. Nous essayons de faire une leçon et nous espérons être beaucoup mieux dans ce championnat du monde junior. Notre objectif est au moins, nous atteignons la demi-finale afin que les jeunes athlètes puissent se concentrer ensemble un par un. Nous essayons de ne pas surcharger, mais si tous les athlètes veulent donner leur meilleur pour l'Indonésie, nous espérons certainement atteindre le meilleur. Selon Souci Soussanti, l'Indonésie possède trois secteurs excellents dans le championnat junior de BWF 2017, à savoir le femme célibataire, le double féminine et le double mix. Auparavant, l'Indonésie avait battu l'Espagne pour accueillir l'événement international de badminton junior. Le championnat junior de BWF 2017 se tiendra au Stade Rogo, Yogyakarta, du 9 au 22 octobre 2017. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que les femmes étaient la clé de la paix de petite à grande portée. Le président, dans son discours lors de la commémoration de la Journée internationale de la paix à Pesantren Anukoya, sous-district de Guluk-Guluk, la région de Sumenep, Java East, a déclaré dimanche que les femmes et les mères jouaient un rôle important. Elles peuvent être la clé de la paix tant des familles, dans les régions, dans les provinces, les pays et dans le monde. Le président a déclaré que la paix ne peut pas être forcée, mais devrait être cultivée, et les femmes peuvent y jouer un rôle. Lors de l'événement, le président a également rappelé que l'Indonésie était un grand pays avec 519 régions, 34 provinces, 1100 langues et diverses cultures. En outre, l'Indonésie compte 714 tribus et une autre diversité. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. L'aéroport international de Soekarno-Hatta en Indonésie est classé 7e dans la liste d'aéroports le plus connecté dans le monde et 2e dans la liste Asio-Pacifique. Ceci est indiqué dans le rapport de Megahub International Index 2017, la version de l'agence britannique OAG. Dans le rapport, l'aéroport international de Soekarno-Hatta a reçu la valeur d'indice de la connectivité 256 à un seul point à la dérive de l'aéroport international à Changi, Singapour, qui a gagné 257. Le président directeur de PT Angkasa Pura II, M. Muhammad Awaluddin, a déclaré le dimanche que l'aéroport international de Soekarno-Hatta était le plus grand aéroport et le plus achalandé en Indonésie, avec le mouvement de passagers atteignant 60 millions de passagers par an. Le service de l'aéroport international Soekarno-Hatta comprend également la deuxième ligne de vol international la plus achalandée dans le monde, telle que Jakarta-Singapour, avec le nombre de passagers atteignant plus de 322 000 passagers chaque mois. Le ministre des Transports indonésien, M. Budi Karya Sumadi, a déclaré que le projet de train semi-rapide Jakarta-Surabaya sera commencé en 2018. Le projet est rapide et bon marché et peut résoudre beaucoup de choses, comme par exemple les questions transversales à Jakarta-Surabaya jusqu'à 800 points. Cela a été dit par le ministre Budi Karya Sumadi à l'aéroport de Trunojoyo, Sumenep, Java East, le dimanche. L'investissement pour ce projet est d'environ 60 trillions rupiah, y compris environ 20 trillions rupiah pour la maintenance de 800 passagers sur une ligne de chemin de fer de Jakarta-Surabaya. Selon le ministre, notamment pour le travail ferroviaire transversal tel que la route Supong ou d'un passager supérieur, son ministère impliquera le ministère des Travaux publics et le logement populaire. La danse de Sintung, la danse originale de la résidence de Sumenep, est devenue l'une des performances présentées au sommet de la Journée internationale de la paix 2017 à Pondok Pesantren Anukoya, sous-district de Guluk-Guluk, la résidence de Sumenep, Madura, Java East, dimanche 8 octobre. L'existence de cette danse est maintenant assez rare. L'anniversaire de la Journée internationale de la paix 2017 à Pondok Pesantren Anukoya est une collaboration entre la Fondation Wahid et l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Cette activité a été assistée par le président Joko Widodo, le ministre social Kofiah Indar Parawansa et le directeur de la Fondation Wahid, Yeni Wahid. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la plage de Biak Tunggal à Bali. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio Indonesia, la Voix d'Indonésie. Outre par l'intermédiaire de l'onde courte, vous pouvez aussi nous capter par l'intermédiaire de live streaming à www.veu.co.id. L'île de Bali est l'une des destinations touristiques en Indonésie qui est populaire dans le monde. Bali est toujours visité par beaucoup de touristes étrangers. En plus de profiter de diverses cultures, la plupart des touristes viennent à Bali pour profiter de la beauté de sa nature, en particulier ses plages. Si vous visitez Bali et cherchez une plage calme, vous pouvez venir à la plage de Biak Tunggal. La plage est encore naturelle et pas beaucoup de touristes visitent la plage. Le nom de Biak Tunggal vient de la langue balinaise qui se compose du mot Bias signifiant sable et Tunggal signifiant être coupé. Cette zone de tourisme est comme une plage de sable blanc, donc la zone côtière n'est pas si large. Le littoral n'a que 150 mètres de long. À droite et à gauche, il est bordé par les roches. Ces roches font que cet objet de tourisme soit séparé des autres plages. Pour cette raison, la situation de la plage est si calme. Serviteur, il existe diverses activités intéressantes à la plage de Biak Tunggal. Par exemple, vous pouvez vous détendre sur le sable blanc, nager à la plage, faire de la plongée en apnée et faire du surf. À gauche de la plage, il y a la roche qui forme un petit lagon. Le trempage dans le cercle du lagon est une activité qui peut apaiser et rafraîchir l'agitation de la ville. La plage de Biak Tunggal s'étend dans la région de Padang Bai, la région de Karangasem, la province de Bali. Il faut environ 2h30 de la ville de Denpasar, la capitale de Bali, jusqu'à cette plage. Il n'y a pas de transport public. Nous vous suggérons de louer un véhicule si vous voulez venir à la plage. Il est gratuit pour entrer dans la plage, mais vous ne pouvez pas rester la nuit car il n'y a pas d'hébergement ici. Chers amis, c'était notre rubrique du magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie à la même heure et même fréquence. Merci de votre fidélité. À demain.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix du Midi et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est membeli hadiah ou acheter un cadeau. Tout d'abord, je vais vous présenter les vocabulaires et les expressions ayant le lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Je vais les prononcer deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Membeli, membeli, en français, acheter. Hadiah, hadiah, en français, cadeau. Hari ini, en français, aujourd'hui. Menemani, menemani, en français, accompagner. Pergi, pergi, en français, aller. Apa, apa, en français, quoi. Teman, teman, en français, ami. Saya, saya, en français, je, moi ou mon. Menurut saya, en français, à mon avis. Kamu, kamu, en français, tu, toi ou ton. Bagus, bagus, en français, bon ou bonne. Laki, laki, en français, homme. Perempuan, perempuan, en français, femme. Minyak wangi, en français, parfum. Bantu, bantu, en français, aider. Pilih, pilih, en français, choisir. Sekarang, sekarang, en français, maintenant. Chers auditrices et chers auditeurs, après avoir présenté le vocabulaire, on va maintenant les appliquer dans une conversation intitulée « Membeli hadiah ou acheter un cadeau ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement chaque phrase deux fois et vous pouvez la répéter après moi. Cette conversation faite par Nita A et Annie B au bureau. A. Annie, hari ini apakah kamu dapat menemani saya pergi berbelanja? Je répète. Annie, hari ini apakah kamu dapat menemani saya pergi berbelanja? En français, Annie, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez m'accompagner pour faire du shopping? B. Kamu mau beli apa? Kamu mau beli apa? En français, que voulez-vous acheter? Saya ingin membelikan hadiah untuk teman saya. Saya ingin membelikan hadiah untuk teman saya. En français, je veux acheter un cadeau pour mon ami. Menurut kamu, hadiah apa yang bagus? Menurut kamu, hadiah apa yang bagus? En français, à ton avis, quel cadeau qui est bon? B. Teman kamu laki atau perempuan? Teman kamu laki atau perempuan? En français, ton ami est un homme ou une femme? A. Teman saya perempuan. Je répète. Teman saya perempuan. En français, mon ami est une femme. B. Bagaimana kalau kamu memberikan minyak wangi? Bagaimana kalau kamu memberikan minyak wangi? En français, que diriez-vous de donner du parfum? A. Baiklah, tapi kamu bantu pilihkan ya. Je répète. Baiklah, tapi kamu bantu pilihkan ya. En français, d'accord, mais vous aidez à le choisir. B. Baiklah, mari kita pergi sekarang. Baiklah, mari kita pergi sekarang. En français, d'accord, allons-y maintenant. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le programme Mari Berbahasa Indonesia ou Parlons l'Indonésien. d'aujourd'hui. Espérons que cette édition pourra être profitable pour vous qui voulez mieux connaître l'indonésien. Merci de votre attention. Au revoir.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, on se retrouve encore dans la rubrique musicale. Et dans cette édition, on va vous présenter des chansons de Keroncong qui racontent la beauté de la nature et de lieux en Indonésie. Bon, on écoutera la première chanson intitulée Bengawan Solo, chantée par Gesang. c'était une chanson cronchon intitulée Bengawan Solo, chantée par Gesang et composée par lui-même, qui est aussi populaire et bien connue dans un certain nombre de pays d'Asie. Au début, Gesang n'est pas un compositeur, il était un chanteur de cronchon pour les événements et les parties dans la ville de Solo. Gesang ou Gesang Marto Hartono est né à Surakarta, Java Central, le 1er octobre 1917. Il est mort à Surakarta, Java Central, le 20 mai 2010 à l'âge de 72 ans. Il n'avait aucune formation musicale. Il a composé Bengawan Solo en 1940 à l'âge de 23 ans sans savoir lire ni écrire une partition. Il est devenu un chanteur de cronchon, musique populaire indonésienne, influencé par les chansons portugaises. Bengawan Solo a été créé pendant environ 6 mois. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons intitulées Tanah Air ou La Patrie, chantées par Tuti Trisedia.
Thank you.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie à Jakarta dans la rubrique musicale. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons de Kroncong. Et c'était une chanson intitulée « La patrie » chantée par Tuti Trisedia. Elle est née à Makassar, Sulawesi du Sud, le 8 octobre 1956. Elle est l'une des chanteuses de Kroncong indonésienne. Elle est célébrée pour avoir reçu le premier prix Bintang Radio et Télévision en 1986 pour la catégorie Kroncong. Auparavant, en 1983, elle a également remporté le premier prix de chanson de Kroncong à Jakarta. En 1988, elle est devenue une chanteuse au Palais d'État, Jakarta. Tuti Trisedia est connue comme une chanteuse qui chante des chansons de Kroncong au Palais d'État pour accueillir les invités de l'État. C'est parce qu'elle aime bien la musique Kroncong, elle a construit Warung Kroncong Gaul. C'est un restaurant et un studio dans la même place qui se trouve au sud de Jakarta. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, nous allons écouter une chanson intitulée « Solo dans la nuit » chantée par Sri Widadi. Merci à tous et à bientôt.
rakyatmu ini. Sadari dulu jadi perhatian
C'était des chansons de Kroncong de la voix de l'Indonésie à Jakarta. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.